Chapitre 22. Cela fait maintenant une semaine qu'Émile et Johan sont arrivés dans le village d'As et qu'ils se sont installés dans le domaine d'Hippolyte. Le domaine est une immense bâtisse en pierre qui se rénove lentement au rythme des allées et venues des volontaires, beaucoup moins nombreux l'hiver. Hippolyte a peu de moyens, mais la lenteur du travail n'a pas l'air de le contrarier. C'est un petit monsieur d'une soixantaine d'années, le crâne chauve, un petit bouc blanc en forme de goutte d'eau au bout du menton. Hippolyte est un ancien berger. De son ancien troupeau, il ne reste que trois moutons, très vieux, et son fidèle chien, Mystique. La petite cabane de berger dans laquelle vivait Hippolyte est toujours intacte à une centaine de mètres du domaine, et c'est là qu'Hippolyte passe toutes ses nuits. Les volontaires, ils sont quatre en ce mois de novembre enneigé, dorment et logent dans une petite annexe du domaine qui dispose de quatre chambres doubles, plutôt étroites et au confort rudimentaire, mais toutes parfaitement chaudes grâce au feu de cheminée, et d'une cuisine commune qui résonne de voix et de rires le soir au dîner. La salle de bain n'est composée que d'une cabine de douche et d'un lavabo niché au fond d'un couloir. Personne ne s'en plaint. L'ambiance est conviviale. Les plats préparés par Hippolyte sont consistants et pleins de saveurs locales. Émile a lié connaissance avec un jeune Allemand nommé Vance, venu parfaire son français ici, et avec le deuxième volontaire, Albin, un père de famille divorcé, désireux de se couper du monde quelque temps. Johan les a entendus discuter dans la cuisine plusieurs fois. C'est comme ça qu'elle a retenu leur prénom et la raison de leur présence ici. Elle n'a pas quitté la chambre une seule fois depuis qu'ils sont arrivés ici. Émile lui apporte son repas matin, midi et soir. Il vient s'enquérir de sa santé plusieurs fois dans la journée. Elle a encore beaucoup de fièvre, surtout la nuit, et elle passe ses journées à grelotter. L'autre jour, ils ont parlé d'elle pendant le dîner. L'Allemand demandait avec son accent prononcé «
Ton ami ne sort jamais de son chambre ?»
Et Émile a expliqué qu'elle était malade, qu'il s'occupait de la guérir, que bientôt elle serait remise sur pied. Elle passe ses journées enroulée dans son châle, à regarder par la fenêtre les pâturages envahis par la neige. C'est beau. Si elle ne se sentait pas si faible, elle irait marcher dans la neige. Elle surprend des éclats de voix, des claquements de portes, des indices qui lui donnent une idée de l'heure qu'il est, de la vie qui continue au dehors. Ce matin, elle a sorti une toile vierge et sa palette de peinture. Elle a posé un pinceau derrière son oreille et elle s'est assise sur le rebord de la fenêtre de leur minuscule chambre. Elle est concentrée sur le paysage. Elle veut dessiner les alpages recouverts de neige, les moutons, la petite clôture en bois qui court tout autour du domaine. Elle veut dessiner Poc, qu'on voit de temps en temps traverser une parcelle de pâturage, laissant de petites empreintes dans la neige.
« Ah, tu peins !»
s'exclame Émile quand il entre dans sa chambre, un plateau repas à la main à l'heure du déjeuner. Ça a l'air de le rendre heureux. Il sourit. Il pose le déjeuner sur le lit et il la rejoint sur le rebord de la fenêtre.
« Qu'est-ce que tu peins ?»
Il détaille son tableau avec attention.
Il n'est pas encore terminé.
Je reviendrai le voir plus tard, alors.
Elle hoche la tête. Elle sait qu'il n'a pas beaucoup de temps pour déjeuner, qu'il doit maintenant se préparer son propre repas, l'avaler en compagnie des deux autres et rejoindre le chantier. Il travaille un maximum aux heures où la température n'est pas négative, puis il s'arrête vers 15-16 heures. Ils n'ont pas vraiment d'horaire imposé, mais c'est ainsi qu'il fonctionne.
Je file, prends bien ta tisane à la camomille, pour la fièvre.
Il se relève, écarte quelques mèches de cheveux collées sur son front humide et y dépose un baiser. Il le fait naturellement, sans y penser. Elle le regarde partir, traverser la chambre et refermer la porte derrière lui.
« À tout à l'heure !»
Mais il ne peut pas l'entendre, il a déjà disparu. Léon est debout au milieu des fondations de la véranda, dans un bleu de travail troué et maculé de ciment. Il regarde tout autour de lui avec une fierté immense. Johan a bien vu comme ses yeux brillaient depuis qu'il s'était installé avec eux. Il chantonne le matin dans la salle de bain. Il sourit tout le temps et il l'embrasse sans cesse, même quand son père est là.
On est tellement bien ici. Je suis tellement content d'être là, répète-t-il en permanence, en clignant des yeux comme pour se persuader de la réalité de ce qu'il vit.
Le printemps arrive. Ils ont démarré les travaux pour agrandir la chambre de Johan un peu tardivement. L'hiver a été rude, et puis le père de Johan a fait un petit malaise cardiaque. Le médecin a dit qu'il avait besoin de repos, et Johan a préféré s'occuper de lui et veiller à ce qu'il se mette au repos plutôt que commencer les travaux. Léon est venu emménager à la fin du mois de décembre pour le réveillon du nouvel an. Johan sait que ses parents lui en veulent énormément. Ils ne se voient plus d'ailleurs. Ils n'ont pas supporté ce qu'ils ont considéré être une trahison. Johan a croisé Madame André un jour dans le centre du village alors qu'elle passait acheter quelques œufs, et cette dernière lui a lancé un regard glacial sans lui rendre son bonjour.
« Regarde !» lance Léon, toujours debout au milieu des fondations. « Regarde ce qu'on a fait !»
Il paraît incrédule.
« Tous les deux, sans l'aide de personne !»
Elle sourit et vient le rejoindre au centre de la future véranda. Elle porte une salopette en jean toute tachée, elle aussi, et ses cheveux sont retenus au sommet de son crâne par un tournevis qu'elle a trouvé dans une boîte à outils. Léon la prend dans ses bras et commence à l'embrasser derrière l'oreille. Elle se débat en riant et elle essaie de se dégager.
« Où est-ce que tu as appris à faire tout ça ?»
demande Léon qui l'embrasse toujours.
« Mon père !»
Il se recule brutalement et la jauge de haut en bas.
« Quoi ?»
demande-t-elle mal à l'aise. « Est-ce qu'il y a un seul truc que tu sais pas faire ?» Elle fait mine de réfléchir puis esquisse une moue.
« Je connais rien à la plomberie et je te parle même pas de tout ce qui est électrique. »
Cela fait rire Léon.
Ça va, je crois qu'on s'en accommodera.
Papa a quelques bases en plomberie.
Mais Joseph a interdiction de faire le moindre effort physique, rappelle-toi.
Ça lui fait tout drôle d'entendre Léon appeler son père par son prénom. Pour elle, ça n'a toujours été que papa. Et dans l'école, tout le monde l'appelle Monsieur Trognier.
Bon, fait-elle en lissant sa salopette. On range tout et on va dîner?
D'accord.
Elle commence à s'agenouiller et à ramasser les truelles, la taloche. Mais elle relève la tête car Léon n'a pas bougé. Il est resté au centre de la pièce. Il a le regard perdu, un regard qui balaie les fondations, le petit potager. Il semble réfléchir.
« Tu penses à quoi ?»
demande Johan, toujours à genoux au milieu des outils. Léon semble émerger brusquement de ses pensées. Il sursaute presque.
« C'est idiot, mais... »
Elle se relève doucement et l'encourage du regard.
« Je me disais, on pourrait transformer cette véranda plus tard. »
Les yeux de Johan s'arrondissent.
« La transformer ?»«
En faire une chambre ?»«
Papa a déjà sa chambre, elle lui convient. La nôtre vient d'être agrandie. »
Léon secoue la tête.
« Non, pas pour nous, Jo. »
Tu sais, papa et moi, on ne reçoit jamais personne. Je ne vois pas l'intérêt de faire une chambre d'amis, sauf si tu penses recevoir tes amis de Nantes à l'occasion.
Mais de nouveau, il secoue la tête.
Regarde cette vue sur le potager. Au printemps, tout sera coloré. Ça ferait une excellente chambre de bébé.
Elle marque un temps de surprise. Léon la sonde. Elle répète.
De bébé ?
Léon acquiesce. Son sourire pétillant est revenu.
Ouais, j'aimerais bien faire un bébé avec toi. Et j'aimerais bien l'élever dans cette maison.
Elle est incapable de prononcer un mot ni même d'esquisser un geste. Elle reste la bouche entrouverte dans sa salopette trop grande.
On transformerait la véranda en chambre d'enfant. Elle serait lumineuse. Et puis, on serait juste à côté. On pourrait toujours garder un œil sur lui.
Elle est toujours abasourdie, mais elle commence tout doucement à sourire.
Il pourrait même regarder Joseph jardiner.
Elle secoue la tête en souriant.
Papa n'aura plus le droit de jardiner.
Et tu crois qu'il écoutera les médecins?
Ils rient tous les deux car ils savent bien que non.
Il jardinera et il l'emmènera dans la baie de Saint-Suliac pour lui apprendre à faire des ricochets.
Elle fait une grimace.
Pourquoi tu dis il? Ce sera peut-être une fille?
Léon semble réfléchir et hausse les épaules.
Ça me rendrait tout aussi heureux. Pourquoi ? Tu veux une fille, toi ?
Elle secoue la tête d'un mouvement catégorique.
Non.
Non ?
Non,
répète-t-elle les bras croisés sur sa poitrine.
Ce sera un garçon.
Pourquoi ?
Parce que c'est ce que je veux. Un mini-toit.
Ils se regardent avec une tendresse infinie au milieu des fondations. Léon a envie de l'embrasser, mais il ne bouge pas. Il sait que ce qu'ils échangent tous les deux du fond de leurs yeux est encore plus fort que n'importe quel baiser.
Johan, Johan, tu dors ?
Elle met quelques secondes à se remémorer où elle se trouve et ce qu'elle y fait. La journée entière a passé. Émile est revenu du chantier et ils ont partagé une partie de Scrabble dans la chambre. Poc était là, lui aussi. Le dîner est passé également, mais elle n'a rien mangé et elle est allée se coucher. Elle avait froid, tellement froid. Elle avait le corps tout entier en sueur. Le plateau du dîner est toujours posé sur le rebord de la fenêtre. Elle s'est endormie en entendant les rires dans la cuisine. Émile jouait aux cartes avec les deux autres. Ils avaient ouvert une bouteille de vin.
« Johan !» répète Émile à son oreille.
Elle n'a aucune idée de l'heure qu'il est, mais l'annexe semble vide. Les deux autres doivent dormir. Il est peut-être minuit ou une heure. Elle se redresse difficilement. Elle est encore trempée de sueur. Elle a mouillé tous les draps. Émile dit que ça n'est pas normal, cette fièvre qui ne passe pas. Cela fait presque 10 jours. Elle, elle sait qu'il ne s'agit pas d'une fièvre ordinaire, que tout ça n'a rien de physique.
Qu'est-ce qui se passe ?
Elle entend sa propre voix et elle la trouve faiblarde, comme si elle était à bout de souffle.
Rien de grave, chuchote Émile. Viens, viens voir.
Il passe une main dans son dos et sous son bras pour la soutenir et il l'aide à sortir du lit.
Où on va ?
Demande-t-elle en se laissant aller contre lui.
Nulle part, Joanne, on va juste à la fenêtre.
Elle a la sensation d'être redevenue une petite fille. Il l'a soulevée dans ses bras. Elle voit ses pieds qui pendent dans de grosses chaussettes en laine et elle sent sa tête qui ballotte contre l'épaule d'Émile. Elle se revoit à 8 ans, un soir d'hiver. Elle était malade. Elle s'était endormie devant la cheminée et son père l'avait portée exactement de la même façon jusqu'à sa chambre. Plus de 20 ans ont passé, mais elle retrouve les mêmes sensations qu'alors. Ce sentiment de sécurité et cette douceur.
Regarde.
Il la dépose devant la fenêtre et elle se cramponne au rebord pour ne pas vaciller. Émile est juste derrière elle.
Regarde, répète-t-il encore. Regarde comme c'est beau. Tu pourras en faire un tableau.
Elle laisse ses yeux se poser doucement sur le paysage, à l'extérieur de leur chambre, sur le blanc infini, les vallons, sur la pleine lune, ce rond parfait qui éclaire l'ensemble d'une lueur fluorescente et presque irréelle. Les étoiles, minuscules et infinies, se découpent sur le noir du ciel, se font discrètes, laissent l'éclat de la lune dominer. Johan pose une main contre la vitre avec des gestes lents. C'est beau, ce calme total au dehors. Cette neige qui étouffe le moindre bruit. Cette lune qui veille sur le paysage tranquillement. Ce contact frais de la vitre contre sa paume brûlante. Elle reste de longues secondes subjuguée par le spectacle. Elle pourrait le peindre, c'est vrai. Mais comment trouverait-elle la justesse pour donner à son tableau cette lumière si particulière ? Son souffle produit une fine buée contre la vitre et elle l'essuie, y colle son nez. Elle sent presque le parfum de la neige, son contact si particulier.
Le ciel s'est découvert au moment où j'allais me coucher.
La voix d'Émile l'a fait sursauter. Elle avait presque oublié qu'il était là, juste derrière elle.
Tu veux sortir ?
Elle se retourne et le fixe avec son regard totalement perdu.
Tu veux aller dans la neige ?
Elle est là, muette et impuissante comme une petite fille qui rêverait d'aller courir dans la neige, mais qui ne sait plus tout à coup. Il ajoute avec douceur.
Tout le monde dort, même Hippolyte. Il n'y a que nous, juste toi et moi.
Alors elle acquiesce d'un tout petit mouvement de tête comme une enfant. Et Émile dégage une nouvelle fois une mèche de cheveux collée sur son front.
C'est bien, dit-il. Allez, viens, on va te couvrir.
Elle a enfilé un pantalon et un pull avec des gestes lents, sans se préoccuper de la présence d'Émile. C'était la première fois qu'il la voyait en sous-vêtements. C'était la première fois qu'il voyait son corps, son ventre, son dos, ses reins, ses cuisses, la naissance de sa poitrine. il a détaillé sa peau qui paraissait si blanche à la lueur des rayons de lune. Il a vu le tatouage, cet arbre de vie très fin qui grimpe tout au long de sa colonne vertébrale et se termine dans son cou. Il ne l'avait jamais soupçonné. Il n'avait pas non plus soupçonné qu'un corps comme celui-ci se cachait sous des vêtements amples. Elle lui avait toujours semblé si frêle et si maigre. Il la croyait chétive. Mais il a découvert cette nuit un corps mince, solide et vigoureux, un corps souple mais inébranlable. Et il a trouvé ça extraordinairement émouvant. Il a songé qu'il représentait bien la personne qu'elle était. Alors il n'a pas tourné le regard et il a continué de l'observer, même quand elle a levé les yeux vers lui. Ils n'ont pas dit un mot. Ils se sont contentés de se regarder. Le silence s'est prolongé, puis elle a recommencé à s'habiller en silence. Ils sont sortis dehors tout doucement. Joanne s'est accrochée au bras d'Émile. Elle ne tremble plus. Ses yeux parcourent le paysage avec émerveillement. Il avait raison. Ils ne sont que tous les deux dans le silence total de la montagne, tous les deux au milieu de l'immensité blanche. Ils marchent avec une lenteur infinie. Leurs pas laissent des empreintes dans la neige fraîche. Ils avancent avec l'impression de n'être pas plus réels que le paysage, de n'être que deux mirages.